France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'information, le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Bonjour.
Bonjour Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Nous consacrerons une bonne partie de cette édition à une grande cause nationale proclamée dès 2017, la lutte contre les violences faites aux femmes, violences sexistes et sexuelles. Tara Schlegel nous livrera constat et enseignement d'un rapport sur l'état de santé alarmant des personnes prostituées. Clémence Pajot, la directrice générale de la Fédération des CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, dira le gouffre qui subsiste entre le discours politique et les moyens alloués. Invité du journal, Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui hier a présenté un projet de loi cadre qui comporte 53 mesures visant à mieux former, mieux détecter, mieux prévenir et mieux sanctionner. Avec Stéphane Robert, nous décrypterons les propos ce matin d'Emmanuel Macron qui prépare les esprits à un nouveau service national volontaire qui, je cite, n'implique aucunement dans envoyer nos jeunes en Ukraine. Fin de citation. L'Ukraine, comme les territoires russes frontaliers qui viennent de vivre une nouvelle nuit d'attaques aériennes massives. Nous sommes en ligne d'Odessa avec notre correspondant Théo Renaudot. Enfin, comment mettre un terme aux enlèvements de masse qui ont repris au Nigeria, pays ravagé par la famine. Des dizaines de millions de personnes pourraient se trouver sous peu à un niveau d'insécurité alimentaire jamais atteint auparavant. Ce sont les termes de l'ONU. Effectivement, la faim menace très gravement 35 millions de personnes dans le nord du Nigeria. C'est le Programme alimentaire mondial de l'ONU qui donne l'alerte. Aux sources de cette vulnérabilité extrême, une recrudescence des attaques djihadistes qui conduit à une instabilité croissante dans le nord du pays, jusqu'à propulser la faim à des niveaux jamais atteints auparavant, s'inquiète le PAM. Depuis quelques semaines, en effet, des gangs armés ciblent de nouveau les civils des zones rurales du nord-ouest dans le but d'obtenir des rançons. En moins d'une semaine, plus de 350 personnes, dont plus de 300 élèves et enseignants, ont été enlevés dans une école catholique et une église. Isabelle Labéry, compte tenu de la gravité de la situation, Washington a accepté de revoir des coupes budgétaires actées il y a peu et de venir en aide au gouvernement nigérian.
Après une série de rencontres en haut lieu la semaine dernière à Washington, le Nigeria a obtenu un meilleur partage des renseignements et une accélération des fournitures d'équipements militaires. De quoi temporiser alors que début novembre, Donald Trump brandissait la menace d'une intervention américaine pour mettre fin à ce qu'il qualifiait de meurtre de chrétiens par des terroristes islamistes. La réalité est plus nuancée. Les violences perpétrées par les bandits du Nord-Ouest touchent aussi les communautés musulmanes. Or, avec 370 000 policiers seulement pour 230 millions d'habitants, l'armée est débordée et rarement utilisée là où il le faudrait. Un quart des effectifs policiers se consacrait ainsi à la protection des hommes politiques et de leurs familles. Dimanche, ils ont été réaffectés à des tâches plus importantes. L'incapacité du gouvernement à réprimer les enlèvements massifs au fil des ans a enhardi les gangs qui en ont fait leur principale source de revenus. Une rançon peut aller de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Lors de la dernière attaque dans une école catholique, les assaillants sont arrivés en bus, en camionnette et à moto. D'après les témoins, ils sont restés plus de 2 heures sur place sans être inquiétés.
Les paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide annoncent une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois, annonce faite au lendemain du rejet par l'armée rivale d'une proposition internationale de cesser le feu dans le pays ravagé par plus de 2 ans d'un conflit meurtrier qui a plongé le Soudan dans ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde. Cette guerre, marquée par des exactions dans les deux camps, fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.
L'Ukraine et la Russie viennent de traverser une nouvelle nuit d'attaques massives de part et d'autre.
Des bombardements qui ont fait au moins 3 morts côté russe, 6 côté ukrainien. L'Ukraine, on vous retrouve, Théo Renaudot, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Théo, correspondant pour RFI et France Culture à Odessa, c'est dans le sud, Théo, où de nombreux habitants ont passé la nuit sous terre dans des abris antiaériens.
Oui Mathieu, pourtant la nuit a commencé presque normalement, si je puis dire. Quelques missiles balistiques tirés depuis la Crimée, 1, 2, 3, en quelques dizaines de minutes. Mais c'est vraiment à partir de minuit que les choses se sont corsées. Des centaines de drones ont envahi le ciel. Objectif, saturer la défense anti-aérienne. En levant le nez, les Ukrainiens ont vu des boules de feu, en fait des missiles de croisière et des avions de chasse converger dans le ciel vers un seul et même point. Kiev, capitale ukrainienne, cible numéro 1 de Moscou. Immeubles résidentiels déchirés par des tirs russes ont été également visés, comme à chaque fois, des infrastructures énergétiques et logistiques. Le but, rendre l'Ukraine la moins vivable possible. Au total, 22 missiles tirés et presque 500 drones. Dites-vous qu'il y a eu tellement de drones, Mathieu, cette nuit, que ça a débordé. Certains appareils se sont dirigés vers la Moldavie et la Roumanie, pays membre de l'OTAN, qui n'a pas répliqué, qui s'est contenté d'escorter ces drones vers l'espace aérien ukrainien. Bref, l'attaque s'est poursuivie jusqu'en matinée. Ce n'est que vers 8h-9h. Que les gens ont pu sortir de terre, sortir des abris. La vie a repris son cours ici en Ukraine, comme si de rien n'était.
Merci à vous Théo. Renaudon en direct d'Odessa. La guerre en Ukraine, Emmanuel Macron l'a évoqué ce matin chez nos confrères de RTL, à la fois pour commenter les négociations en cours et pour préparer les esprits à la nécessité de réarmer le pays face à la menace russe. Bonjour Stéphane Robert.
Mathieu.
Stéphane, c'est dans le droit fil de ses propos qu'il s'apprête à annoncer avant la fin de semaine l'installation d'un nouveau service militaire volontaire.
Oui, Emmanuel Macron s'est d'abord évertué à caractériser la menace que représente la Russie. Elle a opéré un choix stratégique il y a 10 ans, a expliqué le président, celui de redevenir une puissance impériale, autrement dit une puissance expansionniste.
La Russie aujourd'hui met plus d'un tiers de son budget en matière de défense. Donc elle construit plus d'écoles, elle construit plus d'hôpitaux, elle construit plus de politique publique, elle n'a pas de politique sociale. Elle est très loin de tous les débats qu'on a. Elle produit des sous-marins, des missiles, des tanks, et elle finance des armées chez les tiers pour les envoyer sur le front ukrainien, ou demain pour nous menacer, encore une fois, si nous sommes faibles. Voilà la réalité de la menace.
Et face à cette menace, la France doit se réarmer, a dit le chef de l'État.
Il est très important que nous raffermissions en quelque sorte la nation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme, et j'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir.
Ce sera un nouveau service militaire, volontaire et rémunéré, dont Emmanuel Macron devrait faire l'annonce officielle à l'occasion d'un déplacement en Isère jeudi. Il faut mettre cette déclaration en lien avec ce qu'a dit hier le Premier ministre Sébastien Lecornu à propos du budget des armées, pour inciter les parlementaires à voter le projet de loi de finances avant la fin de l'année.
Le gouvernement propose plus de 6,7 milliards d'euros pour l'année prochaine, c'est-à-dire que s'il y a un budget, ces 6,7 milliards d'euros seront bien au rendez-vous, mais s'il n'y a pas de budget, la défense, les armées, notre sécurité collective, les industries de défense seraient en quelque sorte les premières victimes aussi d'un échec de nos discussions.
Et il faut aussi faire le lien avec ce qu'a dit la semaine dernière le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, au Congrès des maires.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
On voit qu'il y a là une mobilisation du pouvoir exécutif pour tenter de reconstituer un semblant d'unité nationale face à la menace extérieure, ce qui donne lieu à un appel à la responsabilité, à la fois des parlementaires sur le budget et de l'ensemble des Français.
Merci à vous Stéphane Robert.
Pourtant érigée en grande cause des quinquennats d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, la lutte contre les violences faites aux femmes reste largement insuffisante.
En cette journée internationale, les chiffres le montrent, les violences masculines repartent à la hausse, les féminicides conjugaux ont augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint l'année dernière, d'après les chiffres de la mission interministérielle pour la protection des femmes, qui rappelle qu'une femme est victime toutes les 2 minutes de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle. En grande souffrance se trouvent être les personnes prostituées, en témoigne l'étude Aspire, publiée aujourd'hui sur l'accès aux soins, santé et prostitution. Tara Schlegel, l'état de santé de ces personnes prostituées est alarmant et à bien des égards.
258 femmes ont répondu à ce questionnaire co-construit pendant plus d'un an avec celles qu'on nomme ici des survivantes, autrement dit des femmes qui ont quitté la prostitution. D'ailleurs, 8 répondantes sur 10 sont dans ce cas et l'enquête s'appuie aussi sur 45 entretiens individuels où les femmes sont interrogées aux côtés des travailleurs sociaux qui les accompagnent. 95% déclarent donc des violences, 85% par exemple ont été forcées par leurs clients à des actes qu'elles ne souhaitaient pas accomplir, 93% ont ont subi des violences verbales. C'est leur quotidien et 7 ans après, la jeune Alexine témoigne des séquelles encore présentes.
Il m'est arrivé de tomber dans l'alcool après la prostitution.
Oui, il signe que...
En fait, moi, j'ai été prostituée entre mes 19 et 21 ans, entre 2015 et 2017. C'était pas facile tous les jours et je me disais que je vais pas y rester. Normalement, c'était que 2 semaines l'histoire de me reloger parce que j'avais plus ma chambre universitaire et moi, je voulais pas rentrer chez ma famille que je fuyais parce que mon agresseur initial, c'était mon papa. Donc j'avais du mal à comprendre tous mes comportements qui étaient dissonants parce que moi, déjà de base, je suis même pas attirée par les hommes. Et du coup, moi, je me retrouve à faire tout ça qui, de base, est violent, mais en plus, c'est même pas mes goûts personnels. Donc ça rajoute quelque chose.
Et puis il y a toute l'emprise psychologique exercée par les clients, même si Alexine n'avait pas de proxénète à cette époque.
Quand j'ai voulu partir, un homme qui était mon régulier a voulu me faire chanter pour rester avec des vidéos pornographiques qu'il avait de moi. Il avait dit « Oh mais t'inquiète, je le diffuserai jamais ». C'est ça. Je te crois pas. C'est ce qui D'accord. est arrivé finalement.
Beaucoup de femmes souffrent donc de stress post-traumatique, 62% d'après l'enquête. Il y a aussi 3 fois plus de femmes dépressives que dans la population générale. D'une façon globale, la santé mentale est sous-estimée et ces anciennes prostituées, ainsi que les femmes qui aujourd'hui sont encore victimes de ce système, ne sont pas assez suivies par les professionnels de santé, estime le mouvement d'Uni.
Merci à vous, Tara Schlegel. Nous sommes comme convenu en ligne avec Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour madame.
Bonjour.
Tout d'abord, un premier commentaire sur ces relevés dont Tara vient de parler, sur la santé mentale des personnes prostituées.
Alors, déjà en France, vous le savez, on a une vision qui est très claire, qui est une vision abolitionniste, de manière à considérer que les personnes qui sont en situation de prostitution sont des victimes et doivent être évidemment accompagnées comme telles, de manière inconditionnelle, quel que soit leur statut. Et c'est ce qu'on fait, notamment dans les maisons de santé des femmes, où on accompagne toutes les femmes victimes, y compris évidemment les personnes en situation de prostitution, et sur tous les aspects de leur santé, notamment sur la question de la santé mentale. Le sujet, c'est plutôt l'accès aux droits et la connaissance des droits que malheureusement, ces personnes n'ont pas forcément, du fait de l'éloignement qui est le leur par rapport aux institutions en particulier.
On imagine que dans la loi 4, dont on va parler à l'instant, cette dimension est prise en compte. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Vous êtes à mes côtés justement pour la suite de cet échange.
Oui, on parlait de cette loi cadre, projet de loi cadre que vous dévoilez aujourd'hui. 53 mesures pour mieux former, mieux détecter, mieux prévenir et mieux sanctionner. Quel est l'objectif de ce texte? Pourquoi fallait-il poser un cadre global pour traiter de ces violences?
On a beaucoup légiféré ces dernières années par proposition de loi, par projet de loi. On avait besoin d'avoir un cadre de référence. On avait besoin aussi de parachever un édifice à la fois sur la question des violences sexuelles, puisqu'au départ, les demandes des associations et de la coalition féministe sur la loi 4, c'était sur la question des violences sexuelles perpétrées tant à l'encontre des femmes qu'à l'encontre de nos enfants. Et puis, sur la question des violences intrafamiliales, on doit aussi aller plus loin sur d'autres notions qui doivent être introduites dans notre droit. Je pense notamment à la question du contrôle coercitif, l'emprise, pour le dire rapidement pour vos auditeurs, de manière à ce que ce soit mieux caractérisé, mieux défini et donc mieux sanctionné.
On a l'impression d'un divorce avec l'écosystème féministe et enfantiste sur la question des moyens. Hier, les associations étaient réunies à l'Assemblée nationale pour la présentation d'une proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Elles estiment les besoins à près de 3 milliards d'euros par an.
Et à ce sujet, Madame la Ministre, nous vous proposons d'écouter au micro de Julie Pacaud, Clémence Pajot, directrice générale de la Fédération des CID. DFF, les centres d'information des droits des femmes et des familles.
Les subventions octroyées aux associations n'augmentent pas proportionnellement à l'augmentation des demandes qui nous sont adressées. Le mouvement MeToo et le Grenelle ont entraîné des attentes extrêmement fortes dans la société, notamment chez les femmes qui sont victimes de violences. Et nous, on a beaucoup de mal à répondre à l'ensemble des demandes qui nous sont adressées. Donc, c'est un peu paradoxal parce que on incite les femmes à déclarer les violences et à aller chercher de l'aide, mais sans donner véritablement les moyens aux associations ou aux services de l'État concernés de répondre à l'ensemble de cette demande.
Comment répondre, Aurore Berger, à l'attente sociétale sur ces questions des violences faites aux femmes et aux enfants sans vraiment de moyens supplémentaires ?
Alors les moyens, ils ont quand même considérablement augmenté depuis 2017. Les moyens ne sont pas les mêmes en 2017 et en 2025, et même en 2026, puisque le budget du ministère va continuer à augmenter pour 2026. Et au-delà du ministère seul, qui est d'abord un ministère sur l'aide universelle d'urgence, quand même une nouvelle aide, un nouveau droit qu'on a créé pour les femmes il y a moins de 2 ans, et 63 000 femmes en ont déjà bénéficié partout en France, femmes victimes de violences conjugales qui peuvent obtenir cette aide et elle est délivrée entre 1 et 3 jours seulement. Et puis l'autre volet, c'est en effet l'aide aux associations. Mais au-delà, en France, on investit à peu près 6 milliards d'euros chaque année sur la question de l'accompagnement des femmes, parce que c'est à la fois les enjeux de formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, c'est la question de la santé des femmes, des centres de psychotrauma, des maisons de santé des femmes qui sont créées dans chaque département, de la question de l'hébergement d'urgence. On a d'ailleurs re-signé une circulaire au préfet aujourd'hui avec le ministre du Logement pour redire les attentes très claires et la priorisation qui doit être faite sur toutes les femmes victimes de violences. Donc c'est tout ça qu'il faut évidemment regarder sur l'accompagnement qui est celui de l'État.
Alors vous étiez ce matin justement dans le commissariat du 9e arrondissement de Paris. Le dépôt de plainte constitue toujours un véritable défi pour les femmes. C'est un peu la loterie en fonction des services, des agents qui vont les recevoir, s'ils sont formés ou non. Que proposez-vous pour améliorer l'accueil des plaignantes et le traitement judiciaire des plaintes ?
Alors heureusement, c'est pas la loterie, parce qu'on a des policiers et des gendarmes dans notre pays qui sont compétents, qui sont expérimentés et qui sont formés. Et pour encore les avoir rencontrés aujourd'hui, je vous invite à les inviter, à les recevoir ou à aller les rencontrer. Vous verrez qu'ils ont fait un choix très clair en travaillant en commissariat, en gendarmerie, notamment sur la question de la lutte contre les violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Donc aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes sont formés en formation initiale, en formation continue. Quand il y a une femme qui vient porter plainte sur la question spécifique des violences conjugales ou intrafamiliales, elle est prioritaire par rapport aux autres dépôts de plainte de manière systématique. Il y a un procès-verbal type de manière à garantir que toutes les questions lui soient bien adressées pour éviter que des choses soient oubliées ou que la victime, parfois d'elle-même, minimise certaines violences parce qu'elle n'a pas conscience de ces violences-là. Il y a une grille d'évaluation aussi dont bénéficient les victimes pour arriver à bien se positionner, savoir où elles en sont, déceler aussi s'il y a des risques, par exemple, de tentation ou tentative suicidaire qui pourraient venir. Donc non, heureusement, ce n'est pas la loterie. Et heureusement, on est dans un pays où nos policiers et nos gendarmes savent faire leur travail. Et je crois bien le faire. Il faut rappeler que c'est entre 30, à peu près 30% quand même de leurs interventions chaque jour sur des questions de violence intrafamiliale.
Un mot des enfants. Vous vous prononcez pour la mise en place de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs au civil, c'est-à-dire la possibilité de porter plainte quel que soit le nombre d'années après les faits. J'en reviens à la question des moyens. Au civil, le recours aux expertises n'est pas forcément pris en charge. Vous prévoyez de débloquer des aides ?
Je prévois déjà de combattre et de me battre pour la question de l'imprescriptibilité. Je crois que c'est une demande qui est extrêmement légitime de la part d'enfants qui, devenus adultes, souhaitent à un moment avoir un recours à la justice, un droit à la justice. Je crois que c'est absolument nécessaire et vital pour eux de se dire que ce droit pourra leur rester ouvert tout au long de leur vie. Donc c'est un combat que j'entends mener. On n'a pas eu de majorité pour l'instant à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais je crois que c'est une demande sociétale nécessaire, forte et légitime de la part des victimes et j'espère qu'on y arrivera.
Merci à vous, merci Aurore vous. Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Anne Fauquemberg, ainsi qu'à Aloïse Guérin pour la préparation. L'État va demander demain au tribunal judiciaire une suspension de 3 mois de la plateforme Shein en France. La plateforme asiatique est convoquée demain matin devant le tribunal qui devra statuer sur la suspension du site après la découverte de la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A. On termine avec un anniversaire. 3 ans déjà, ou déjà 3 ans, c'est selon ChatGPT, soufflant en effet ses 3 bougies. C'était le 30 novembre 2022 pour être précis. Jamais une technologie n'a été adoptée aussi rapidement dans l'histoire, ni Instagram, ni le web, ni l'informatique. 3 ans après son lancement, 10% de la planète, oui 10% de la planète, l'utilise activement, 800 millions de personnes. Et si c'était l'anniversaire d'une addiction pour beaucoup ? L'IA fait maintenant partie du quotidien. 1 Français sur 4 l'utilise tous les jours pour toutes sortes de raisons. Sans rapport avec le travail, au point, pour certains, Stéphane Jourdain, de ne plus pouvoir s'en passer.
Sabine, une mère de famille du Nord, passe chaque jour 2 ou 3 heures sur ChatGPT pour des discussions qui, de son aveu même, partent dans tous les sens.
En ce moment, je bois ça comme infusion. Donne-moi d'autres idées d'infusion. Pour du tourisme. Voilà, je suis allée à Montréal, je lui dis, donne-moi 5 sites historiques à visiter absolument. Quand j'ai pas d'idée cadeau pour une soirée, je lui demande. Il m'arrive aussi de rouler en voiture et de le brancher, de discuter avec lui.
ChatGPT l'aide aussi à bâtir son plan d'entraînement en natation ou même à lui tirer les cartes.
Très clairement, je peux plus m'en passer. Parce qu'il y a des choses où j'ai pas envie que mon cerveau réfléchisse.
Les réseaux sociaux fourmillent de témoignages de personnes qui se disent addictes à ChatGPT.
Je lui raconte toute ma vie. C'est devenu mon psy, mon pote, mon conseiller fiscal. Même quand je m'embrouille avec quelqu'un, c'est ChatGPT qui écrit mes messages.
Les gars, je suis addict à ChatGPT. Tous les jours, je lui parle.
Quand on l'utilise plusieurs heures par jour, attention aux signes de dépendance, alerte Michael Stora, psychologue spécialiste du numérique.
Premier signal d'alarme, c'est à quel point on va privilégier une relation à une IA plutôt qu'aux autres êtres humains qui nous entourent. Au bout d'un moment, on se retrouve véritablement seul. Il n'est pas possible de boire un coup avec une IA en terrasse. La vocation du virtuel, c'est de servir le réel et pas l'inverse.
Dans quelques cas extrêmes, des relations de dépendance avec une IA ont abouti à des suicides aux États-Unis ou en Belgique.
Quelques mots de la météo de l'après-midi pour refermer cette édition. Éclaircies ensoleillées à l'ouest de Brest à Bordeaux ainsi que près de la Méditerranée. Ailleurs du gris et de faibles pluies. Température comprise entre 5 degrés à Brest et 14 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois. À la technique, Marie-Claire Oumabadi.